Antoine Volodine, qui vient de publier ce roman monument qui s'appelle Terminus radieux. Ce travail a été préparé avec un groupe d'étudiants qui ont lu de près Antoine Volodine. Et donc Mathilde Bonazzi, à qui je donne la parole, va présenter le travail rapidement, quelle a été la démarche des étudiants, vu que Mathilde a coordonné ce travail efficacement, avec art, donc des étudiants.
Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors je reprends pas tout ce que j'ai dit hier, je voulais juste signaler que les étudiants que vous voyez là, Kevin Enoch, Solon...
Rocabois.
Et Julie Bonnet ont bien sûr travaillé à bien connaître l'œuvre d'Antoine Volodine pour vous interroger aujourd'hui. Mais il y a aussi ceux que vous ne voyez pas et qui ont travaillé avec eux, puisque c'est évidemment un travail assez titanesque. Donc il y a Johan, ici, Marie, Simon, Catherine, et je n'oublie personne. Et Mathieu. Voilà, donc c'était un groupe assez important qui a fait le choix de confier la parole à ces étudiants qui sont là. Donc, bonne écoute et à tout à l'heure.
Bonsoir à tous. Alors, je vais m'essayer au difficile exercice de présenter très brièvement le roman et peut-être plus largement le post-exotisme. Près d'un carrefour dans les quartiers nord de l'Orbise, capitale de la deuxième Union soviétique. La rumeur s'est répandue très vite. Les capitalistes, autant dire les barbares, sont aux portes de la ville. Les banlieues non réduites en cendres tiennent vaille que vaille, soutenues par une guérilla héroïque. La défense de la ville s'organise, des armes sont distribuées, des unités de combat sont formées. Puis vient la déroute, la confusion, la terreur. La machine Volodine commence à peine à s'échauffer. Elle atteindra bientôt son rythme de croisière. Rapidement, les rangs de la résistance sont décimés. Les rares chefs d'unités encore vivants deviennent fous. On procède à des exécutions sommaires. Le communisme, une fois de plus, s'effondre. Trois camarades, Eli Kronauer, Vassilissa Maragvili et Ilyuchenko, combattants égalitaristes survivants, s'échappent de la ville occupée par l'ennemi et s'aventurent dans les territoires interdits. Immense étendue sibérienne de taïga et de steppe, irrémédiablement irradiée, où depuis des centaines d'années se sont succédés des liquidateurs venus y périr. Mais pas tous. Les habitants du kolkhoz Terminus Radieux, dont la mémé Oudgoul et l'inquiétant Soloviei, chaman anarchiste de son état, ainsi que ses trois filles, ont su tirer leur épingle du jeu du désastre nucléaire en accédant à une forme semi-humaine d'immortalité. Un peu plus loin, un convoi de semi-morts et de semi-vivants, tous soldats ou prisonniers, entreprennent un voyage vers un camp rêvé où prendra fin leur interminable errance. Les récits post-exotiques semblent pouvoir se dérouler à l'infini, avant et après l'histoire, au-delà du livre. De fait, le post-exotisme trouve sa source dans une profusion fictive de paroles en milieu carcéral. Suite à la défaite cinglante de leurs idéaux, des combattants égalitaristes sont enfermés à perpétuité dans une prison. Leur lutte pour un avenir meilleur a été durement réprimée, mais à travers la défaite, leur enthousiasme ne s'est pas brisé. La révolution est bafouée, mais l'idéal égalitariste continuera à se frayer une voie à l'intérieur des fictions post-exotiques. Ces prisonniers, dans leur captivité, échangent des paroles, racontent des histoires, s'échangent des récits de défaite et de rêves. Leurs murmures forment un tissu narratif inextricable, inouï, qui tant bien que mal parvient à l'extérieur, hors les murs, hors la prison. Ces murmures deviennent des livres. Ces livres, dont les signatures sont celles des écrivains post-exotiques, Lutz Bassmann, Manuela Dreger, Eli Kronauer et enfin Antoine Volodine, proviennent donc d'une création collective, d'un matériau oral où la rumination des échecs du XXe siècle est fondamentale, mais où la notion de paternité de l'œuvre importe peu. Le post-exotisme est né. Depuis bientôt une trentaine d'années, Antoine Volodine se place en porte-parole discret autour d'un territoire d'une quarantaine de livres, signés des différents hétéronymes que nous avons mentionnés. Tous sont partie prenante du post-exotisme, appellation manifeste de cette construction romanesque dont on a pu parler comme d'une comédie post-humaine. Antoine Volodine écrit, composant ses livres entre deux voyages chamaniques dans l'espace noir onirique des mondes, tel un Balzac de la déglingue. L'univers post-exotique est un univers où il faut entrer. Sortir sera une autre affaire, mais entrer d'abord. Toi qui pénètres ici, abandonne toute espérance. À cette phrase, Dante aurait pu t'ajouter, mais n'oublie pas de rire. Car de rire, il est souvent question dans vos livres. Un humour qui trouve sa place au milieu du désastre et qui modifie notre manière d'appréhender le temps et la folie, la mort, l'échec. Cet humour du désastre parcourt tous les livres post-exotiques et nous tient la main dans toute votre œuvre, où se tiennent coude à coude marxisme-léninisme et chamanisme, idéaux révolutionnaires et livres des morts tibétains, onirisme et politique. Les personnages post-exotiques vont jusqu'au bout. Ils professent une opposition radicale, violente au réel. Ils entrent sans réserve dans la tourmente, professent des slogans par-delà la mort, parcourent l'espace indécis des rêves, arpentent le champ miné de la mémoire, tentent un dernier coup de poker onirique à la face du réel. Et ensuite, Nietzsche vaut. Ensuite, rien.
C'est tout.
Et puis rien.
Bonsoir à tous. Merci Solon pour cette belle introduction. Antoine Volodine, vous assistez au banquet de la grâce qui a pour thème la fabrique du roman. Et pourtant, à vous entendre dans certaines interviews, vous semblez un peu vous défendre de ce statut de romancier. Vous préférez au terme de roman la construction d'un bel objet à la fois musical, structuré et orné. Donc nous sommes ici pour discuter avec vous de cet ouvrage, de ce beau livre, et tenter de comprendre comment vous construisez un ailleurs du roman, un ailleurs linguistique. Et donc je laisse la parole à Kevin pour lancer cette rencontre.
Merci Julie, bonsoir à tous, bonsoir Antoine Volodine. Pour commencer, je souhaiterais évoquer le caractère polyphonique du post-exotisme. Il s'exprime tout d'abord, je crois, dans la forme de votre dernier ouvrage Terminus Radieux. Il y a une rupture dans la structure de ces différentes parties. Je m'explique, les trois premières répondent à une forme romanesque semblable, tandis que la dernière est accompagnée du sous-titre « Nara ». Et se compose de chapitres beaucoup plus courts que les précédents. Pourriez-vous développer pour nous ce terme « Nara » et pourquoi ce choix ici, dans ce livre ?
Alors, la forme « Nara » est une forme qui a été publiée, montrée publiquement, à partir en particulier du livre qui s'appelle « Des anges mineurs », qui était un recueil de naras. Les naras, au début du livre de ce recueil « Des anges mineurs », étaient définis comme des instantanés de prose, des instantanés romanesques. Il ne s'agissait pas de nouvelles, il ne s'agissait pas véritablement de chapitres, mais de moments, d'images fortes dans lesquels les personnages vivent un moment extrêmement court, une situation comme dans un rêve brutal, furtive, fugitive, et à partir de là naît quelque chose qui est le cœur d'une anecdote qui peut-être pourra se développer dans d'autres naras du même livre ou se développer dans l'imaginaire du lecteur ou de la lectrice qui sont là confrontés à un matériau qui devient un matériau qui offert à leur, à leur interprétation, les lecteurs et les lectrices qui sont très présents dans l'œuvre d'une manière générale et auxquels s'adressent presque en permanence ceux qui disent l'histoire, ceux qui disent l'anecdote, qui disent le livre, sont très présents dans le livre et sont sollicités pour être comme des interprètes d'une partition qu'on leur offre. Et donc c'est cette forme qui est narra, qui est une forme lorsque plusieurs narras sont mises ensemble, lorsque l'on est en face d'un recueil de narras qui devient un objet romanesque, eh bien cette forme est extrêmement efficace pour ne pas se perdre dans les méandres d'un roman trop long, d'un truc trop long, comme dirait Agnès tout à l'heure. Il y a ce côté à la fois fragmentaire, très réduit et très efficace dans le récit. Et j'ai utilisé pour Terminus Radieux, donc une forme romanesque, le livre est un roman, bien entendu, mais qui utilise beaucoup de techniques romanesques, dont celle du recueil de narra pour la dernière partie, et la brièveté de ces chapitres, la brièveté de ces moments romanesques est également un paradoxe, dans la mesure où cette dernière partie se déroule sur des siècles, des millénaires même, de traversée de la taïga, traversée infiniment lente, puisque les personnages sont bien au-delà de la mort, les personnages errent dans la taïga, vont vers l'extinction lentement, mais les narras qui décrivent cette marche vers l'extinction, cette marche où tout se ralentit, où la nature s'assombrit de plus en plus, où les saisons s'indifférencient, il n'y a plus ni jour ni nuit, ni donc hiver, ni mesure possible du temps. En même temps, il y a ce paradoxe qui permet de faire passer cette invraisemblable durée, ce prolongement, grâce à des moments courts, anecdotiques, à des images des images ou des séquences cinématographiques, mais des images qui ne sont pas longtemps prolongées et qui accumulées dans cette dernière partie permettent d'avoir une vision globale du temps qui s'écoule infiniment, de la pénombre qui prend peu à peu le pas sur tout, sur la planète et dans la taïga en particulier, et dans l'esprit des personnages.
D'accord. Alors, je vais partir sur une direction un peu différente, qui est celle du théâtre. À notre avis, le texte est parcouru de clins d'œil au genre théâtral, des clins d'œil d'abord thématiques, mais ensuite des clins d'œil qui vont jusqu'à se diffuser dans la narration elle-même. Alors, je vais peut-être citer un petit passage, puisque ces clins d'œil au théâtre tournent souvent autour de la figure de Soloviev.
Soloviev, qui est le président du kolkhoz Terminus Radieux et qui est à la fois un chaman, un thaumaturge, un koulak, un anarchiste, et tout cela mélangé donne une figure assez particulière qui est d'ailleurs en plus héritière de la figure épique du rossignol brigand qui appartient aux légendes russes et qui aux légendes épiques russes Et le nom même de ce président du Kolkhoz, Soloviev, renvoie à Soloviev, Soloviev Razbojnik, le rossignol brigand qui a des traits communs avec, avec ce kulak anarchiste.
Alors donc là, c'est un extrait où le Soloviev en question s'adresse à on ne sait quoi d'ailleurs. Alors, c'est page 301. Il n'y a que des mots à mettre dessus pour que le paysage s'éclaire ou s'éteigne. Les vivants ou les morts, même personnages de théâtre. Théâtre ou rêve mal digéré, peu importe. Théâtre des survivants ou séance étrange d'agite propre, peu importe. Que j'aille ou que je vienne, le lieu pour mes semelles ou mes griffes ne change pas. Que celui qui parle se taise ou déclame, les spectateurs n'existent pas ou sont les mêmes. Alors, ma question est donc la suivante. Je voulais savoir quel usage vous faites de la théâtralité dans la narration et selon quel objectif ?
Le théâtre est extrêmement présent depuis toujours, mais parlons de ce livre. La théâtralité dans ce gros roman est très présente, ne serait-ce que dans le décor. Les personnages sont peu nombreux, ils évoluent toujours dans le même décor. Alors, le décor, évidemment, peut évoluer au fil des décennies ou des siècles, puisque le roman se déroule toujours avec les mêmes personnages, mais dans cette durée étirée dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Et en fait, les scènes théâtrales, c'est les décors théâtraux, c'est la steppe, premier décor, la taïga, deuxième décor, et d'autre part, le village qui s'appelle le Levanidovo, et où se trouve le Kolkhoz, surnommé Terminus Radieux. Et puis il y a un autre décor très important qui est la voie ferrée sur laquelle va infiniment vers le rien un convoi de quelques voitures traînées par une locomotive, disons magique, qui n'a pas besoin de carburant, enfin bon, qui va ce convoi vers qui contient des détenus et des soldats qui sont ni détenus ni soldats et qui s'échangent leur rôle en permanence et qui ne sont également ni morts ni vivants. Ces personnages, d'une part, voudraient en terminer avec cette errance dans le convoi et cherchent à arriver enfin à être accueilli enfin dans un camp. Ils cherchent un camp providentiel, un camp qui est pour eux le paradis. Et régulièrement, le train fait halte et autour d'un feu de camp, détenus et soldats indifférenciés se réunissent et se taisent ou prennent la parole, chantent des chansons diphoniques mongoles ou prennent la parole pour raconter des histoires, de fausses biographies, leurs fausses biographies ou des fausses microbiographies d'autres personnages imaginaires ou alors pour faire l'éloge des camps d'une manière générale. On est dans l'humour. L'éloge des camps dans l'humour noir, l'humour spécifique du post-exotisme qui est l'humour du désastre. Et donc là, on est également dans un décor qui est récurrent, qui est des hommes la nuit autour du feu avec très peu de lumière qui échangent des récits, des monologues, et dans le livre, les personnages existent énormément dans des petites scènes où soit il y a monologue, soit il y a dialogue. C'est une facilité aussi pour raconter l'histoire. C'est également une nécessité qui est fondée sur le fait que j'ai parlé de Nara avec des séquences brèves, des images brèves. Le livre s'organise de façon théâtrale, oui, mais également de façon cinématographique autour d'images et d'images où les lecteurs et lectrices sont attirés. J'essaie de faire en sorte que on plonge dès le départ dans une première image, puis dans une suite d'images pour qu'on suive de très près les évolutions des personnages comme on les suit au cinéma, d'une façon un peu différente de la lecture romanesque habituelle. Moi, je cherche énormément à fabriquer des images pour justement permettre la transmission de l'histoire, la transmission pour permettre la proximité entre lecteur et lectrice, celui ou celle qui lisent, et les personnages qui puissent les accompagner. On accompagne plus lorsqu'on est happé par une image, comme au cinéma. Donc il y a théâtre, théâtralité et cinéma.
Alors, moi, je voulais vous interroger sur un ressenti de lectrice que j'ai eu. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une tension permanente entre la croyance des personnages en des valeurs de solidarité, de fraternité et de ces idéaux égalitaires. Et en même temps, on a ce constat accablant de l'échec de ce système, avec ce temps rond, il n'y a ni début ni fin. On a l'impression qu'on suit des personnages en cours de route. Et même dans la langue, il y a, on a l'impression d'une boucle infinie. Et même, on en parlait tout à l'heure, des passages de folie, des personnages qui sont en quelque sorte déshumanisés. Ça m'a rappelé, plus ou moins, le terme de certains livres qui sont caractérisés de dystopiques. La dystopie, c'est un genre littéraire issu de l'œuvre de Thomas More, l'utopie, et aussi des critiques des philosophes des Lumières, et qui a ensuite donné ces romans d'anticipation et qui vise à... Le terme est peut-être un petit peu fort, mais critiquer un système idéologique pour en montrer ses faiblesses, son échec. Et je voulais savoir si, pour Terminus Radieux, vous étiez d'accord avec ce terme de dystopie, ou si pour vous, c'était enfin autre chose. Je voulais savoir votre ressenti.
Mon ressenti. Bon, sur utopie et dystopie, effectivement, dans la mesure où j'imagine au départ que l'action va se situer dans quelque chose qui est après la chute de la deuxième Union soviétique, et où, d'autre part, le personnage de Soloviev, dont j'ai parlé tout à l'heure, thaumaturge dirigeant le kolkhoz dont il est président, mais dirigeant également, on peut le soupçonner au fil des pages, dirigeant l'ensemble de l'action qui se trouve dans le livre, qui est décrite dans le livre, dirigeant les personnages, s'introduisant dans les personnages, dans ses filles, dans Kronauer, le personnage de soldat qui arrive à Terminus Radieux. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, mais enfin c'était. Et oui, la seule chose que j'ai marquée, oui, c'était pour la dystopie, oui, dystopie. C'est un terme que je trouve trop savant et j'ai du mal, moi, à me déterminer par rapport à ce qui est théorique, trop abstrait. Bien entendu, il y a des aspects de dystopie dans tous les livres qui décrivent. Qui décrivent une période d'avenir, disons, une période à venir, imaginaire et onirique, où rien ne se passe bien. Bon, alors effectivement, c'est des aspects dystopiques, mais on n'est pas là dans la description politique d'une deuxième Union soviétique. Avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pas du tout. On est dans la description intime de personnages, à l'intérieur du destin de personnages, des filles de Soloviev, de Kronauer, de la Mémé Oudgoul, la compagne de Soloviev, des soldats et des détenus qui sont dans ce convoi. On est proche d'eux et pas du tout. Donc ces personnages se trouvent à l'intérieur d'un territoire totalement irradié non pas par une guerre nucléaire, mais parce que dans la deuxième Union soviétique, surtout vers la fin, on a imaginé qu'il fallait que chaque kolkhoz, chaque petite agglomération dispose de son énergie et d'une autonomie énergétique complète et rien de plus simple que de mettre une pile nucléaire dans chaque kolkhoz. Ce qu'il y a, c'est que tout s'est déglingué, les piles nucléaires les unes après les autres ont été prises de folie et la planète... La Sibérie, en tout cas, dans laquelle se passe le livre, tout un continent, le continent sibérien, sont devenus absolument inhabitables. Et les personnages qui sont mis en scène dans ce livre ne sont plus sensibles aux radiations, d'une part parce que la Mémé Oudgoul et Soloviev... qui ont été des liquidateurs, c'est-à-dire ceux qui sont intervenus sur les sites nucléaires pour essayer de réparer au mieux ou d'empêcher que la catastrophe soit trop grande. Soloviev et la Mémé Oudgoul, finalement, ont beaucoup apprécié le bombardement de rayons gamma et ça leur a donné une sorte d'immortalité. Et ils sont dotés d'immortalité. L'immortalité, c'est parfois assez ennuyeux, ce qui fait que Soloviev, on peut soupçonner que dans son immortalité, pour se désennuyer, il crée un théâtre de marionnettes, dont les marionnettes. Qui sont ses proches, il manipule comme des marionnettes tous ceux et celles que l'on rencontre dans ce livre. Il manipule ses filles, il les manipule d'ailleurs de façon incestueuse, qui est un des thèmes très importants de ce roman. Et dans ma lecture tout à l'heure, on verra une de ses filles qui réagit de façon meurtrière et folle à l'inceste et à la domination de son père. Et donc ces deux personnages, la Mémé Oudgoul et Soloviev, on peut dire qu'ils représentent ceux qui ont tirer tout bénéfice de l'irradiation. Là aussi, on n'est pas dans un docu-fiction, on est dans l'humour assez noir du post-exotisme. Et d'autre part, les autres personnages, les soldats, les détenus, Kronauer, les filles de Soloviev, leurs maris, sont... en cours de route, j'ai marqué en cours de route que Julie tout à l'heure a utilisé dans sa question, ils sont en cours de route vers on ne sait quoi, mais c'est surtout que ils n'ont pas à se soucier des conséquences des radiations parce qu'ils sont déjà morts. Les personnages, comme toujours dans mes livres, sont morts dès la première page. Donc cela étant, c'est déjà une première étape qui est passée. On peut s'occuper de ce qui va suivre. Et ce qui va suivre dans mes livres qui sont forcément optimistes, puisque la mort n'existe pas. Et après le décès, on continue infiniment à faire la même chose que ce qu'on faisait avant. Donc, c'est plutôt rassurant en ce qui concerne les perspectives. Et est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Alors, dans une interview publiée en 1997, attendez la fin. Dans le matricule des anges, dans un dossier qui vous était consacré, à la question, dans ce monde éclaté que vous mettez en scène, y a-t-il un salut possible, une porte de sortie? Vous aviez répondu, la seule porte de sortie, c'est un refuge provisoire. J'ai tronqué la réponse. Cette réponse m'a instantanément fait penser à une citation de Kafka. Quelle jouissance peut-on avoir du monde à part s'y réfugier? Je crois qu'on peut se poser cette question dans le monde de Terminus Radio, et j'aimerais savoir quelle est pour vous cette notion de refuge. Quelle importance y donnez-vous, ou comment parleriez-vous?
Non, l'idée d'un refuge lier cette idée de refuge au livre Terminus Radieux, c'est deux choses. D'une part, on peut parler du refuge de l'écriture. L'écriture est un refuge. Et quand on raconte que le décès n'est que un épisode dans l'existence et que ensuite ça continue et que la mort finalement n'existe pas, c'est un refuge intellectuel pour échapper à la peur de la mort. Hein. Ça, c'est évident. Et l'écriture qui est répétitive à ce niveau-là dans de nombreux livres, tous les personnages donc ne sont ni morts ni vivants puisqu'ils existent, ils continuent à exister après leur décès. Ça c'est une première direction pour penser au refuge. Et puis il y a dans Terminus Radieux un refuge qui est justement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est pour ce qu'on voit, pour détenus et soldats, une sorte d'idéal qui est le camp. Parce que à l'intérieur du camp, enfin, il serait leur errance se terminerait, et parce que ils imaginent que à l'intérieur du camp, puisque le dénuement est total, la fraternité et l'égalité peuvent être véritablement concrétisées. Et l'idée égalitariste qui traverse tous les romans que j'écris et qui traverse l'idéologie prolétarienne de mes personnages, cette idée pourrait dans leur rêverie, pourrait se concrétiser dans le cadre de ce refuge, de ce paradis inaccessible qui est le camp. Alors, comme tout ne se passe pas toujours très bien dans mes livres, lorsque enfin le convoi arrive devant un camp, le camp ne les accepte pas, on leur tire dessus et ils doivent continuer leur errance. Voilà.
Mais du coup, n'y a-t-il pas toujours cette idée de rechercher un refuge, puisque arrivé dans un camp, toutes les choses ne vont pas se passer comme prévu. Que peuvent attendre les personnages d'autres dans votre roman?
Mais ils attendent la fin. C'est là-dessus que se termine le roman. Les personnages errent infiniment au fil des siècles de leur intellect qui se dégrade de plus en plus au milieu d'une nature qui est de plus en plus sombre et non pas inhospitalière, mais de plus en plus squelettique, réduite à rien. Et ils attendent la fin, ils attendent l'extinction. C'est après le décès, normalement, pendant 49 jours, on marche dans le bardo, dans un univers flottant, et au bout de 49 jours, on renaît. Bon. Mais c'est pas toujours comme ça. Et de toute façon, dans mes livres, comme je ne suis pas bouddhiste et que je ne tiens pas à respecter très exactement les enseignements du bouddhisme tantrique sur ce sujet, mes personnages restent dans cet après-décès. Ils y restent, selon les livres, beaucoup plus de 49 jours, ou parfois 49 jours, et parfois 49 siècles, simplement. Hein. Donc, l'idée d'attendre, d'aller vers quelque chose où il se passera peut-être quelque chose qui sera enfin la fin, c'est ça le refuge pour mes personnages.
Oui, et puis pour peut-être pour rebondir et aller un peu plus avant cette question de l'attente de la fin, vers cette fin, les personnages se soumettent à des sortes, on pourrait dire, des exercices, ou alors leurs activités sont réduites à peu de choses, mais il y a toujours cet effort de conserver une part d'humanité. Je pense par exemple à Elie Kronauer, qui continue dans la solitude extrême à réciter des noms de plantes, ou encore à cette figure assez intéressante de Aldola Eshulov, qui a été l'amant de Anko Voghoulian, qui est une des filles de Soloviev, et qui a été un grand musicien, et qui jusqu'à la fin du livre continuera d'essayer de pratiquer sa musique, alors que à partir du moment où il commence à errer dans une espèce de temps bardique à travers les siècles, il est de plus en plus incapable de le faire, mais il continuera jusqu'à la fin à tenter de conserver une pratique artistique et de toujours continuer à se relier au monde et au réel à travers la pratique artistique.
Oui, il y a ce caractère d'obstination de nombreux personnages qui vont vers la fin. Qu'est-ce qu'ils conservent? Ils perdent presque tout, mentalement, bien sûr, physiquement, ils perdent les sens, la sensualité se dégrade, il y a de moins en moins de raisons de s'accrocher au monde, et restent un certain nombre de choses. Et donc, pour quelqu'un comme Aldo Leigh Schulhoff, il reste l'idée de la création artistique. C'est un barde. Il n'a plus rien. Il n'a plus de voix. Mais il veut continuer à être barde. De même, Anko Voguliant, qui est qu'il ne retrouvera jamais dans la forêt. Anko Voguliant persiste à vouloir, en vivant absolument seul dans la taïga pendant des décennies et des décennies, persiste à vouloir retrouver la mémoire des textes qu'elle a lus. C'est pas une grande intellectuelle. Parmi les textes qu'elle essaie de retrouver, il y a des manuels d'agriculture, mais enfin, il y a des poèmes de son père également, et elle essaie de retranscrire avec obstination, sans matériel pour le faire, quelque chose qui est également de l'ordre de la création artistique. Et Kronauer, lui, essaie de maintenir vif dans ce qui lui reste d'esprit deux choses. D'une part, sa fidélité amoureuse à la femme qui au moment de la fin de la deuxième Union soviétique, c'est-à-dire très 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 longtemps avant, était sa femme et qui a été tuée par les fascistes, pour dire vite. Il a cette fidélité à cette Irina Etchenguyen. Il maintient cette image en lui, ce qui arrive dans d'autres livres également, hein, cette fidélité amoureuse à l'image de la disparue ou du disparu. Et puis, autre élément important, essentiel pour lui, c'est la fidélité à ce qu'il appelle la morale prolétarienne, les principes de la révolution qui sont devenus uniquement des principes moraux et une volonté, une aptitude particulière à la fraternité et à la compassion.
Merci. Oui, marche pas, si. Merci, monsieur Voulodine. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps pour les questions. Ça risque d'être un peu long. J'avais néanmoins une question sur... Oui, vous voulez lire? Donc, non, mais il n'y a pas de problème. Oui,
c'est bon, là?
Oui,
sinon vous avez...
Oui, donc on va lancer les lectures. Donc je voulais vous remercier, monsieur Voludine, d'avoir répondu à nos questions.
Non, faut pas dire monsieur Voludine quand même, c'est pas ça. Non.
Merci Antoine Voludine.
Merci mademoiselle Julie.
Avec plaisir. Merci à la Maison du Banquet de nous accueillir ici dans ce lieu si agréable. Et merci à tous pour votre attention. Et donc on va vous laisser lire l'extrait de Terminus Radieux.
Donc d'abord, merci à Julie, à Kevin et à Solon qui m'ont questionné et au public qui a été attentif. J'espère qu'il le sera encore parce que je vais procéder à une lecture. Donc la seule chose à savoir avant cette lecture, c'est Soloviev est président du Kolkhoz, c'est un magicien. Morgovian est un personnage secondaire qui est le mari de Samiya Schmidt qui va beaucoup être présente dans cette lecture et qui est une fille de Soloviev, le président du Kolkhoz, et qui déteste son père. Le président du Kolkhoz leva les bras, puis les laissa retomber le long de ses flancs comme pour dire que la situation était pénible, mais qu'en même temps on ne pouvait rien faire sinon l'accepter. Il cherchait ses mots pour une prochaine vérité ou un mensonge. Sa barbe était électrisée et comme sa chevelure l'était aussi, il avait une tête cerclée de poils et de cheveux noirs qui semblaient vouloir s'envoler en tous sens, un visage nimbé d'un rayonnement noir. Ses yeux dorés étincelaient au-dessus du matelas qu'une nouvelle vague de flammèches venait d'éclairer, ainsi que sa malheureuse occupante. « Qui c'est ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» hurla Samiya Schmidt en pointant l'index sur le corps de Vassilissa Marachvili, couvert de guenilles caramélisées, sur le visage que la mort avait rendu indifférent à tout, en contraste avec la naissance charbonneuse des épaules, des chairs, que l'on devinait tordu sous les effets de la sorcellerie et des radiations. Alors qu'il se tenait habituellement sur la réserve, hésitant le plus souvent à prendre la parole en présence de Soloviev, dont il devinait le mépris, Morgovian, pris d'une mauvaise inspiration, jugea bon de répondre du tac au tac. On essaie de la ravoir, dit-il. Mais pourquoi ? S'exclama Samiya Schmidt. Elle s'avançait, elle bouscula Morgovian et se plaça à 1 mètre de Soloviev. « Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ? » demanda-t-elle. Une nouvelle fois, Soloviev leva les bras et les laissa retomber pesamment. « C'était la femme de Kronauer, soupira-t-il, Vassilissa Marachvili. Elle est entrée dans un tunnel noir. » Elle est ni morte ni vivante. On peut encore l'extirper du noir, mais c'est déjà limite. Samiya Schmidt fut déformée par un spasme. Elle sentait monter en elle la première houle d'une crise à venir et elle savait que le délire et l'agitation allaient bientôt la submerger. Elle commençait à entendre sa peau changer de nature et le crissement des écailles qui prenaient en elle le chemin de la surface. Elle cogna de la main sur un des compresseurs. Le bruit résonna beaucoup plus que s'il s'était agi d'une simple claque. Déjà, sa chair avait durci. Elle cogna sur un tuyau qui partait en direction de Soloviev, puis elle se tourna vers Morgovian et le poussa violemment vers l'arrière. « Vous voulez faire du mal à cette fille » cria-t-elle. « Mais non !» tenta d'expliquer Soloviev. Il allait vers elle, bras tendus et mains ouvertes pour la saisir à l'épaule. Il voulait l'empêcher de s'en prendre à l'installation. Vous êtes que des monstres, hurla-t-elle en tapant de nouveau sur le compresseur. Vous voulez faire le rut avec elle. La nuit est longue, très mouvementée, très bizarre et très longue. En quelques minutes, Samiya Schmidt prend sa forme de furie. Puis, elle échappe à toute norme. Ni Soloviev, avec ses pouvoirs pourtant considérables, ni Morgovian, évidemment, ne peuvent la calmer. Elle se couvre d'écailles très dures. Elle donne des coups terribles. Elle se déplace à une vitesse invraisemblable. Elle transforme son cri en énergie. Elle n'a plus de sang. Ou plutôt, elle n'a plus ni sang, ni absence de sang. Elle n'est ni morte, ni vivante, ni dans le rêve, ni dans la réalité, ni dans l'espace, ni dans l'absence d'espace. Elle fait théâtre. Elle fait alliance avec le combustible. Elle provoque des incendies de flammes froides. Elle fait alliance avec le vide, avec le combustible maîtrisé, avec le combustible suspect, avec le combustible pris de démence et immaîtrisable. Elle va et vient à vive allure entre les deux piles, entre les puits que surveille la mémé Houdgoul et le réacteur de secours bricolé sous le bâtiment du Soviet. Elle prononce des malédictions, des invocations aux forces qu'elle connaît, aux forces dont elle a entendu parler et aux forces qui n'existent pas. Elle court dans l'obscurité plus vite qu'une balle de fusil. Elle court dans la forêt nocturne. Elle s'aventure sous les mélèzes, jusqu'à la vieille forêt, puis elle revient, elle fait plusieurs fois le tour du Levanidovo, en courant à la lisière des arbres noirs. Elle revient vers les crépitements nucléaires, elle trace des cercles autour des cœurs nucléaires jusqu'à ce que les huiles des pompes prennent feu, elle trace des cercles jusqu'à ce que des flammes glacées tonnent et tourbillonnent autour des barres de combustible. Elle énumère les crimes de son père et elle ordonne aux forces surnaturelles de ramener son père dans la région des camps, de le contraindre à rester derrière un nid de barbelés dans un isolateur à régime sévère. Elle ne rencontre personne, ou plutôt, elle se refuse à voir ceux et celles qui sont sur son chemin, qu'ils appartiennent ou non à la horde des vivants, à la cohorte des chiens ou au troupeau infini des morts. Elle se couvre d'écailles dures et bruissantes, elle se couvre de gouttelettes noires, elle se couvre d'étincelles. Ses cheveux repoussent brièvement et s'allongent jusqu'à ses chevilles, puis, de nouveau, son crâne est chauve. Elle fait vent, elle fait théâtre, elle fait ciel noir, elle fait quatre ciels noirs. Elle appelle les forces quand elle est contre la forêt. Elle appelle les forces quand elle devine autour d'elle la terre des tunnels. Elle appelle les forces dès qu'elle est à proximité des barres de combustible. Elle va jusqu'à l'origine des temps et elle souffle dessus en hurlant. Puis elle atteint la fin des temps et elle souffle dessus. Elle invoque les anciens leaders de la révolution mondiale, elle invoque les grandes figures, les masses anonymes, les peuples disparus. En récitant des listes compactes, réduites à un court bredouillis strident, elle invoque les héros de la première et de la deuxième Union soviétique, ceux qu'elle connaît et ceux qu'elle vient d'inventer, les grands et petits, savants, les prolétaires inflexibles, les ingénieurs, les vétérinaires, les archivistes ayant laissé leur contribution au monde en marche, les liquidateurs sacrificiels qui ont donné leur vie sur les chantiers des centrales déréglées, les détenus et les soldats héroïques, les musiciens héroïques, les cosmonautes. Quand elle se retrouve dans la chaufferie en face de Soloviev, elle renverse Soloviev et elle le tabasse. Elle lui demande pourquoi il n'est pas encore mort. Et quand il se défend, elle le gifle avec ses mains plus solides que du fer. Et elle lui demande de cesser d'entrer en elle comme dans un objet sans pensée. Et elle le tabasse avec rage. Elle lui demande aussi de cesser d'entrer dans ses sœurs comme dans des territoires de chair inerte, sans pensée ni sensibilité au chaud et au froid. Elle fait jaillir des flammes froides et des flammes tièdes du corps de Soloviev dès qu'elle le touche. Elle le bat, elle lui demande de mettre fin à son immortalité de pacotille et de ne plus infliger à ceux et à celles qui l'entourent une immortalité de pacotille, afin d'humilier son père, elle exige de lui qu'il ne réponde pas à la grêle de coups qu'elle lui inflige. Elle parcourt le Levanidovo, en tous sens elle traverse les murs sans dommage, à la manière des neutrinos qui traversent la terre de part en part sans démolir ni la terre ni eux-mêmes. Elle oblige Soloviev à courir derrière elle pour l'empêcher de mettre le feu à tout le village et pour éteindre les incendies qu'elle allume. Elle l'entend haleter derrière elle et parfois elle opère un brusque demi-tour pour se cogner contre lui, le bousculer et le maudire. Elle se couvre d'une suie qui ne s'efface ni ne se craquelle, et soudain, elle est lumineusement belle. Puis, de nouveau, elle ressemble à une créature filante et obscure. Elle va de la chaufferie du soviet à l'entrepôt de la mémé Outgoul. Elle glisse le long du puits jusqu'au cœur de la pile, dans les profondeurs ténébreuses. Elle remonte après avoir touché le cœur. Elle court de nouveau à très grande vitesse vers le centre du village. Elle passe par sa maison, par sa chambre. Elle ne regarde pas ce à quoi elle ressemble dans le miroir. Elle descend les escaliers. Elle retourne à la chaufferie. Elle cogne sur les tuyaux, sur les pompes, sur les portes dispersées irrationnellement dans le fatras des conduites brûlantes. Elle va jusqu'au nid de Soloviev et quand celui-ci est sur son chemin, elle le tabasse. Elle va et vole sous la terre aussi bien que sur la terre et parfois elle file si vite qu'elle n'est ni ici ni là. Jamais elle ne touche les restes de Vassilissa Marachvili. Jamais elle ne contemple ou n'examine le corps de Vassilissa Marachvili. Elle traverse les rideaux de flamèches qui s'agitent sur le mur du rédacteur. Elle enjambe le cadavre de Vassilissa Marachvili, mais elle ne le contemple ni ne l'examine au passage. Elle ne tient aucun compte des récriminations de la mémé Oudgoul, qui l'exhorte à se calmer et à accepter son destin, à accepter les mutations qui se sont emparées d'elle, mais qui lui garantissent de durer infiniment à l'intérieur du Levani Dovo, qui l'encourage encore et encore à accepter la vie sans mort offerte par son père, à accepter les monstruosités de son père, à accepter son père tel qu'il est. Elle se couvre de paillettes de glace coupante, elle se couvre de nuit, elle fait nuit aveuglante, elle fait tempête immobile, elle fait théâtre, elle fait souffle, elle fait ciel, elle fait 12 ciels noirs, elle convoque des tribunaux exceptionnels pour juger Solovieil. Elle se couvre d'un plumage terne, elle se couvre d'un duvet urticant et noir, elle fait nuit d'encre, elle fait théâtre, elle fait blizzard, elle fait nuit de goudron, elle fait millième catégorie puante. Quand Solovieil fait passer par haut-parleur ses affreux poèmes divagatoires afin de couvrir les clameurs qui sortent de la bouche de sa fille, elle trace des spirales autour des haut-parleurs en murmurant des extraits de littérature épique qu'elle connaît par cœur ou des accusations fondamentales contre son père. Elle rassemble un tribunal populaire. Elle constitue un jury avec des tchéquistes incorruptibles, des soldats de l'armée rouge, des vengeurs de la deuxième Union soviétique, des zecs exemplaires, des détenus modèles. Elle accuse son père de manipulation et de sorcellerie sur des humains décédés et fiers de l'être. Elle l'accuse de vilenie et de relations incestueuses avec des filles imaginaires, avec des épouses réelles, défuntes ou imaginaires. Elle l'accuse d'actes de débauche commis sur des victimes consentantes, de fornication avec la mémé Oudgoul. Elle l'accuse aussi d'avoir fait le rut avec ses propres filles, avec une liste de filles dont elle égrène les noms sans cesser d'aller et venir dans les rues et les souterrains du village, avec des filles dont elle lance les noms au hasard dans les ténèbres, avec des inconnus dont elle invente les noms, avec des filles telles que Solayan Merkourine, Imria Goud, Nadian Beck, Ketty Birobidjan, Maria Djibil, Maria Dongfang, Luli Grunewald, Barbara Rock, avec des kolkhoziennes dont la mémoire s'est perdue, avec des poétesses dont la postérité n'a retenu ni le nom, ni le visage, ni les poèmes, avec des prisonnières communistes enfermées avec lui dans les camps, avec des femmes contre-révolutionnaires et des représentantes de la première, de la deuxième et de la troisième catégorie puante. Et pour clore la liste, elle l'accuse encore une fois d'avoir eu des rapports ignominieux avec ses propres filles. Elle l'accuse de crimes génétiques. Elle traverse le Levani Dovo en répandant des rumeurs insanes et de douloureux souvenirs d'enfance. Elle prétend qu'elle n'est même pas née de mère inconnue. Elle dit qu'elle n'est pas née. Elle se couvre d'une buée goudronneuse, elle se couvre de poussière brillante, elle se couvre de pointes vibrantes, elle se couvre de lanières de peau, elle se couvre de givre. Elle continue à parcourir les chemins et les souterrains du Levani Dovo à une vitesse telle que personne n'est témoin de son passage. Elle fait poison, elle fait ouragan, elle fait théâtre. Soudain, elle est vertigineusement épanouie, soudain elle resplendit et presque aussitôt elle est une poignée de chair sorcière qui court et court dans la campagne et qui tape sur les troncs des arbres, sur les murs des fermes dont tous les animaux sont morts, sur Morgovian quand il surgit stupidement sur son parcours. Elle déchire Morgovian, elle déchire ses vêtements de vieux mariés de la campagne, elle lacère Morgovian, elle détruit son corps attardée, maintenue en vie frauduleuse par les magies de Solovieil. Elle retire de son corps les magies de Solovieil. Elle essaie de tuer Morgovian quand il s'interpose entre elle et le réacteur du soviet. À chaque rencontre, elle essaie de le tuer. Elle tape sur les canalisations jusqu'à ce que le métal chante. Elle se couvre d'un pelage de louve blanche et dans l'instant, de nouveau, elle ressemble à une jeune fille perdue dans la révolution culturelle, fragile dans sa tenue militaire asexuée, avec pour seule coquetterie un ruban rouge au bas de ses nattes et un badge rouge sur son informe casquette verte, et ensuite, elle reprend sa course effrénée au milieu des flammes de la nuit. Elle cogne sur les barres de combustible, elle les manipule, elle agite l'eau des cuves, elle n'en peut plus. De désespoir, elle se jette sur les parois silencieuses et elle y laisse des traces de suie et de désespoir. Elle bat l'eau des cuves, elle rebondit de conduite en canalisation, elle rebondit avec des bruits de viande contre les murs, avec des bruits de ferraille, avec des bruits d'avalanche. Elle fait vengeance, elle fait profondeur, elle fait obscurité, elle fait théâtre. Elle lit un acte d'accusation interminable. Elle accuse Solovieille d'immortalité contre-révolutionnaire. Elle lui reproche d'avoir coutume de pénétrer illégalement dans les rêves de ses filles et dans ses filles, afin de leur transmettre à leur insu un excès d'immortalité dont elles n'ont que faire. Elle bat son père, elle cogne sur sa mémoire, elle souille sa mémoire, comme il a souillé la mémoire de tous ceux et de toutes celles dans lesquelles il a pénétré afin de les maintenir dans un état frauduleux entre vie et mort. Elle accuse son père d'orchestrer le Levanidovo comme un rêve ignoble, d'orchestrer la forêt, d'orchestrer la steppe et l'au-delà concentrationnaire des camps. Elle l'accuse d'emprisonner en lui l'ensemble des vivants et des morts du Levanidovo et de son au-delà. Elle dénonce devant le tribunal populaire l'ubiquité suspecte de Solovieille, son appartenance à plusieurs catégories puantes en même temps, sa mauvaise gestion du kolkhoz Terminus Radieux, ses sources d'approvisionnement criminelles. Elle l'accuse d'assassinat de marchands dans la forêt. Elle l'accuse de pillage de caravanes. Elle dénonce la stature effrayante de Solovieille, son apparence de koulak triomphant, ses haches magiques, sa luxure. Elle fait théâtre, elle fait opéra, elle fait cantopéra. Elle fait de gros dégâts dans les endroits où elle passe et sur les corps qu'elle tabasse. En compactant au maximum le flot des mots, elle récite dans leur intégralité des brochures marxistes-léninistes qui parlent de la révolution mondiale, de la fin de l'histoire et des bonheurs qui attendent les générations à venir, les modes d'emploi des piles à combustible, les manuels d'hygiène pour kolkhoziens, les romances post-exotiques de son enfance, les manifestes féministes pour femmes ni vivantes ni mortes, les traités d'oncologie pratique, les fascicules destinés aux éleveurs de cochons, aux éleveurs de yaks, aux éleveurs d'abeilles, aux institutrices placées dans des conditions pédagogiques extrêmes, les romans d'aventure dans le Grand Nord. Elle se suspend aux conduites dans lesquelles siffle de la vapeur sous pression, elle casse des portes, elle jette derrière elle des planches, des copeaux, elle jette par-dessus son épaule des plaques de fer, des serrures entourées encore de la chair des portes. Elle file à travers la nuit et à travers les murs, les cuves, les circuits bouillants, puis elle revient vers Morgovian et elle le bat. Elle s'approche encore une fois de Solovieille et elle le tabasse. Elle ne fait qu'alimenter en images et en vitesse sa colère impuissante. Elle se couvre de lambeaux de chair, d'excroissances métalliques, de vapeurs organiques, et une seconde plus tard, elle est déjà de nouveau habillée d'une cuirasse d'écailles invraisemblablement dures et bruissantes. Elle continue à aller et venir dans le Levanidovo, en surface et sous la terre. Elle fait éclair, elle fait foudre, elle court. Elle imagine qu'elle met tout à feu et à sang. Puis brusquement, on ignore où elle se trouve. Elle fait silence. Elle fait théâtre dans le silence brusquement revenu. Elle fait absence. Elle a disparu. Et elle se tait.
Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Antoine.